Des ondes vocastes, l'univers de la radio en podcast.
Salut à tous, c'est Olivier Audoux, bienvenue dans le deuxième épisode des ondes vocastes de cette saison 4. Dans ce numéro, on va tout d'abord accueillir Brûlatour, le rédacteur en chef de la lettre pro de la radio. On reviendra avec lui sur la rentrée radio, sa relative stabilité, mais aussi ses surprises. On parlera notamment du cas Europe 1, ce qui a déjà changé à l'antenne, mais aussi ce qui risque de se passer ensuite avec la prise de contrôle attendue de Vivendi sur Lagardère. Dans cette partie Actu Débat, on recevra aussi Rémi Bertolon qui nous parlera d'une radio pirate qui a fait parler d'elle cet été en Bretagne. Dans la deuxième partie des ondes vocastes, et désormais comme de coutume, on fera la place à une grande interview. Dans quelques jours, le DAB+ métropolitain démarrera ses émissions sur l'axe Paris-Lyon-Marseille, et à cette occasion, je recevrai Hervé Gauthier, membre du CSA en charge du groupe Travail Radio et Audio Numérique. Il viendra nous expliquer les enjeux de ce lancement tant attendu et ultra stratégique pour le futur de la radio en France. Des ondes vocastes, saison 4, épisode 2, c'est parti!
Des ondes vocastes.
Brûlatour, bonjour.
Bonjour Olivier.
Tu es le rédacteur en chef de la lettre pro de la radio. On ne présente pas la lettre, à la fois site internet avec l'actu quotidienne de la radio, mais aussi un magazine mensuel rempli d'infos et d'entretiens. Alors justement, dans la dernière édition du magazine, on retient de ton édito qu'en cette rentrée, toutes les radios, ou presque, ont joué la prudence.
Alors, comme je l'ai indiqué dans l'édito du numéro 135 de la lettre pro de la radio, j'ai tout de suite donné la température, si j'ose dire, parce que j'ai titré l'édito « C'est un peu mou du genou ». Bon, on sent bien que la crise est passée par là. Il n'y a pas eu non plus le ramdam des années précédentes, des saisons précédentes. Il y a deux grosses machines qui ont changer le moteur, si j'ose dire, Europe 1 et puis Fun Radio qui a revu son identité visuelle, son slogan, son identité musicale aussi et une évolution de son habillage d'antenne. Bon, hormis ces deux gros paquebots, il n'y a pas eu grand-chose sur le plan des nouveautés. Ça suit son cours, on sent qu'il y a des adaptations, bien entendu, mais il n'y a pas eu de très très gros changements. Et puis aussi, surtout, c'était un peu mou du genou parce que il n'y a pas eu les conférences de presse qu'on avait pu connaître par le passé, avec par exemple une salle à Radio France bondée. Là, pour le coup, c'était en distanciel. Donc, même Radio Classique, je crois, a annulé sa conférence de presse de rentrée. Donc, on sent bien que cette nouvelle saison ressemble un peu à la saison précédente. Et on sent bien que le secteur radiophonique traîne son cortège de problématiques, toujours issues de la crise sanitaire. Voilà, tout le monde est un peu tendu comme des cordes à piano. Donc, le marché réagit à tâtons, si j'ose dire. Donc, une rentrée ouais, un peu molle du genou, c'est ce que je dirais, ce qui donne d'ailleurs, je pense, le tempo de la prochaine saison qui sera, j'imagine, un peu mollassonne.
Alors à propos d'Europe 1, on a eu droit dans la presse à deux interviews de ses dirigeants clés, celle d'Arnaud Lagardère d'abord dans le JDD et celle de Constance Banquet dans le Figaro, tous deux défendant le rapprochement avec Vivendi et démentant toute transformation vers une radio d'opinion.
Alors, au sujet d'Europe 1, dont on a beaucoup parlé, pas nous, mais les médias sur la place, comme on dit, ou dans la place, moi, j'ai pas d'avis sur Europe 1. En plus, c'est pas le genre de la maison, c'est pas la philosophie des éditions HF que de tirer des plans sur la comète, par exemple, ou de jouer la carte de la politique fiction. Moi, je vous avouerai très honnêtement que je ne sais pas ce qui va se passer sur Europe 1. Il y a eu apparemment beaucoup de changements qui se constatent sur la grille. Bon, moi, j'ai envie de vous dire, avec le recul que j'ai, la petite expérience, je pense qu'Europe 1 n'a pas fait sa rentrée début septembre. Hein. La vraie rentrée d'Europe 1, elle se fera fort probablement en janvier prochain, lors de ce qu'on appelle la petite rentrée, et puis aussi, surtout, la véritable rentrée d'Europe 1, avec fort probablement un nouveau slogan, une nouvelle couleur, une nouvelle tonalité. Alors, je sais pas à quelle tonalité donnera la radio, notamment sur le plan politique, j'imagine. Je ne sais pas où est-ce qu'elle va se positionner, mais je pense que la grande rentrée d'Europe 1, ce sera en septembre 2022. D'ici là, moi, je lis pas dans le marc de café. Il y a beaucoup de possibilités, de potentialités qui sont évoquées, mais moi, je suis pas dans le secret des dieux, donc je sais pas véritablement ce qui va se passer. Et puis, hormis Ondelatte, j'ai rien écouté sur Europe 1 en cette rentrée, parce que, un, j'avais pas le temps, et puis deux, j'avais pas forcément envie non plus.
Bien, et effectivement, comme tu le disais, les changements d'Europe 1 sont sans doute devant nous, puisque Vivendi a annoncé il y a quelques jours vouloir faire une OPA sur le groupe Lagardère dans son ensemble d'ici fin 2022. Donc effectivement, ce serait une prise de contrôle totale de la radio, mais aussi de Virgin et RFM. Alors, un des changements déjà en place sur Europe 1, c'est l'arrivée de l'émission Punchline de Laurence Ferrari en fin d'après-midi, éco-diffusée sur CNews. On écoute tout de suite un extrait.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Il est 18h sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Que se passe-t-il dans les stades de foot? La hargne, voire plus, entre les supporters atteint de nouveaux sommets. Hier, plusieurs matchs de Ligue 1 ont été émaillés de violence, notamment lors de ces débordements que nous allons voir. La commission de discipline se réunit en ce moment même pour décider des sanctions à prendre. On regarde et on écoute surtout ce reportage de Benjamin Brito.
C'est une triste habitude qui s'est emparée des stades de Ligue 1. Hier soir, le championnat de France a encore été le théâtre de nombreuses...
Voilà, extrait de Punchline sur Europe 1 tous les après-midi. Alors, Brûlatour, sur RMC, il y a à la fois de la stabilité avec Apolline de Malherbe le matin, qui entame sa seconde saison, les grandes gueules toujours en place depuis 20 ans, mais aussi quelques nouveautés avec par exemple l'arrivée d'Estelle Denis pour un talk à la mi-journée.
Alors, même cause, mêmes effets, j'ai envie de dire, pour RMC, je me positionne comme un auditeur lambda, donc moi je vous dirais que les écrans publicitaires le matin, j'ai vraiment de grosses difficultés, plus je vieillis, plus j'ai des difficultés à me les avaler, surtout quand ils sont nombreux entre 6h et 9h, c'est devenu pour moi un frein. Alors j'ai réécouté les grandes gueules en ce début de saison, voilà, c'est punchy, l'habillage est génial, bon, les grandes gueules qui composent l'équipe sont véritablement des grandes gueules. Voilà, on peut pas forcément des choses à dire. C'est souvent de l'enfonçage de porte ouverte, si j'ose dire. Mais ça fait réagir l'auditeur. Donc, il y a beaucoup, si j'ose dire, d'engagement sur l'antenne. Ça, c'est intéressant pour le matérialiser comme étant un levier d'audience. Ensuite, Estelle Denis, on a fait une page avec elle. Apparemment, c'est une journaliste qui est très très sympa. C'est Olivier Malcura, de mémoire, qui a fait cette page-là. Moi, j'ai pas eu le temps de l'écouter. Et puis, je vous dirais aussi, pour être franc, j'ai pas écouté les après-midi non plus, parce que là, pour le coup, je suis pas très sport, moi. Donc, le foot, le rugby et les autres sports, c'est pas mon kiff. Donc, par voie de conséquence, j'ai un peu survolé aussi cette année RMC. Alors, je sais pas si Estelle Denis arrivera à catalyser sur l'antenne. Comme on dit chez nous, c'est surtout à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Donc on verra ça en juin prochain, mais il faut lui souhaiter beaucoup de courage. Voilà, à mon avis, elle prend le taureau par les cornes, donc advienne qui pourra et le meilleur pour elle, forcément.
Alors, tout va bien pour France Inter, qui a pris la tête des audiences depuis quelques temps déjà au niveau national. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la rentrée de Radio France dans son ensemble?
Alors, ce qui a marqué les esprits pour Radio France, c'est la conférence de presse de rentrée qui s'est encore une fois tenue en distanciel, et puis à ceci près qu'elle s'est tenue aussi parallèlement dans 4 ou 5 stations locales de France Bleu. Donc ça donne le tempo, hein, à Radio France. Ils misent sur la proximité cette année. Moi, je suis véritablement très curieux de savoir comment va être matérialisée la prochaine saison sur France Bleu en termes de stratégie. On sent bien qu'il y a une volonté de rajeunir le public. On a reçu des ordres pour certainement faire baisser la moyenne d'âge de l'auditeur. Ça s'est senti dès cet été avec des rendez-vous un peu à la Night Fever le week-end sur France Bleu. On le sent sur la programmation musicale qui rajeunit. On le sent aussi sur le personnel d'antenne qui, là aussi, rajeunit, avec des sujets qui rajeunissent, une forte présence sur le terrain. Donc, je pense que France Bleu a véritablement tous les atouts pour réussir cette saison. Bon, France Inter, à mon avis, devrait garder la tête du classement. Déjà parce que les programmes sont sympas, déjà parce qu'il y a aussi une bonne couverture, faut pas l'oublier, sur le plan hexagonal, en nombre d'émetteurs, donc ça joue. Et puis un confort d'écoute, dans le sens que c'est pas gavé de publicité non plus. Donc ça, c'est intéressant pour l'auditeur. Coup de cœur pour France Culture. Moi, je suis un amoureux de France Culture depuis déjà plusieurs années. Alors pas en direct, mais en replay. Voilà, c'est aussi un changement de consommation, hein, du média radio. Carbone 14, Les Pieds sur Terre, Entendez-vous l'écho, voilà, ça ce sont vraiment des émissions où on apprend une multitude de choses. Et pour moi, quand même, la radio, enfin l'ADN de la radio, ça sert quand même à ça, quoi. Apprendre des choses. On peut se divertir, mais écouter des gens parler et surtout dire des choses intéressantes et engageantes. Là, pour le coup, on est véritablement dans l'ADN de la radio et France Culture vraiment a trouvé une bonne recette. D'ailleurs, en témoignent les chiffres d'audience, hein, mais là aussi, qu'il faut remettre en perspective parce que sur le territoire hexagonal, la chaîne a une superbe couverture quasi optimale. Mais chapeau pour France Culture. Là, ce que je peux dire sur le service public comme ça, grosso modo, rapidement.
Et l'un des objectifs affichés de Radio France, c'est aussi de faire sur l'ensemble de ses antennes du fact-checking pour combattre les fake news. Et justement, côté fake news, complotisme, etc., on a vu apparaître cet été en Bretagne une radio anti-passe sanitaire. Oui, oui, une radio pirate. Et pour en parler, on accueille Rémi Berthelon, animateur radio. Alors Rémi, tu as donc fait la découverte de cette radio pirate cet été.
Ouais, c'est ça. Alors je commence à vous connaître, vous qui écoutez en tant que passionné de radio, le poil se lève. Une radio pirate, c'est illégal, mais quand même, ça rappelle la bonne époque. Eh bien moi, je vous promets que dans un instant, vous allez adorer le CSA. Cette radio pirate était une radio militante anti-passe sanitaire. Oui, vous avez le droit d'être anti-passe sanitaire. Mais colporter les propos que j'ai entendus sur cette radio pirate, là, c'est franchement nauséabond.
Avant de nous en dire plus, Rémi, comment as-tu découvert cette radio pirate au juste ?
Eh bien, par pur hasard, j'étais en vacances, j'arrivais en Bretagne, dans le Morbihan. Oui, on peut partir en vacances en Bretagne. Et puis dans la voiture, ma femme me dit « bah tiens, c'est étonnant, sur le RDS, c'est indiqué « anti-passe ». Et effectivement, le RDS était très clair, c'était marqué « anti-passe ». Et dans un premier temps, j'ai cru que bah c'était un bug, ça peut arriver. Et puis en écoutant, j'ai vite compris. Hein. Les propos étaient purement complotistes. Ils argumentent sur des pseudo-révélations scientifiques. Avec Macron, on est dans un régime totalitaire. Ceux qui se font vacciner sont des faibles. J'en passe sur les références sur la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, les vaccins sont des leurres, un peu comme les douches dans les camps de concentration. Ça sert à amadouer et à nous injecter, en l'occurrence, des puces. On est, je cite, dans le transhumanisme.
Et dans la forme, Rémi, ça se présente comment, cette radio pirate ?
Bah, dans la forme, dans le format, c'était plutôt efficace en dehors du contenu, on est d'accord. Hein. Bon, la qualité de son, c'était pas trop ça. Dans un premier temps, je pensais que c'était une radio associative qui pétait les plombs, avec tout le respect que j'ai pour les radios associatives, parce que le son était un peu faible, pas traité, etc. Mais sinon, le format était bien installé. C'était des capsules de 2 à 3 minutes qui s'enchaînaient les unes après les autres, chaque élément avec un seul angle d'attaque pour argumenter, et ça faisait une boucle d'une heure et demie comme ça qui tournait tout au long de la journée. J'ai pu l'entendre à plusieurs reprises pendant 3 à 4 jours. Du coup, après, j'ai fait un tweet, notamment pour m'interroger sur la fréquence, le 107.9. Hein, c'est vrai que ça met la puce à l'oreille. Et puis ensuite, ça a été retweeté et j'ai été contacté par France Bleu.
J'imagine, Rémi, que c'est France Bleu Armorique.
Oui, je suis passé dans le journal de 18h avec une interview. Et puis, une demi-heure après, c'est Ouest France qui me contacte via Twitter, puis un hebdo local, puis Libération. Et puis, le sujet a été repris par le Huffington Post, par France Inter. Et au bout de 3 jours, cette radio pirate a cessé d'émettre. Silence radio. Il y a le Telegram qui a pu les contacter. A priori, ils revendiquent une diffusion depuis un bateau. Le golfe du Morbihan, a priori. Bon, je sais pas, mais en tout cas, la zone de couverture était plutôt bonne. Et puis, j'avais fait une capture d'écran du RDS. Donc ça a été repris à plusieurs reprises. Mais j'avais pas eu le réflexe, dans un premier temps, d'enregistrer cette radio pirate. Et puis ensuite, bon, j'ai continué mes vacances.
Merci Rémi pour ce témoignage rare d'une radio pirate en France. Alors, Brûlatour, retour sur la rentrée radio. Et cette fois, côté musical. Alors, sur Énergie, c'est la grande stabilité. Il faut dire que ces deux talks, Manu le matin et Echoé l'après-midi, sont très bien implantés, avec désormais respectivement 4 heures et 5 heures d'antenne chacun. Koé qui d'ailleurs a fait la une du dernier mag.
Alors c'est Koé qui a fait la une du précédent numéro, effectivement. Koé, c'est un animateur qui a commencé dans les radios locales, donc il est très accessible. Il adore parler de la radio, je sais qu'il lit... apparemment le magazine, il suit l'actu des radios via le site lalette.pro. Quand on lui demande de passer au salon, il est là. Donc c'est une personne qui est très intéressante. Et puis respect pour ces 5 heures, je crois, d'antenne quotidienne sur Énergie. Voilà, un garçon sympa. Il mérite véritablement d'avoir une place imposante sur une grille, parce que pour le coup là c'est vraiment un véritable professionnel. Après moi je suis un peu hors cible, hein, donc j'écoute pas forcément, mais voilà, c'est un champion quoi. Wendy Bouchard sera celle qui fera la une du prochain magazine, donc ce sera le numéro 136. Voilà, Olivier Malcura aussi, qui est un peu chez nous le préposé au une. Je crois que l'article est déjà prêt et fort probablement qu'elle nous dira comment elle voit cette nouvelle saison ici sur France Bleu. Et puis comme ça, en diagonale. Alors en diagonale, dans le prochain numéro, un panorama des nouveautés techniques de la rentrée, un zoom sur la matinale de Radio Nova, le déploiement du DAB+ le 12 octobre prochain, forcément. On s'intéressera, je pense, au quota de chansons françaises au Québec et en Belgique, une fois n'est pas coutume. Et puis voilà, on s'intéresse aussi au podcast, donc on essaye de trouver chaque mois un équilibre.
Et d'ailleurs, on vous invite à vous abonner. Ça démarre à seulement 9,90€ par mois pour retrouver tout ce riche contenu. Pour vous donner un aperçu du dernier numéro déjà paru, hormis Coé, on a Jérôme Florin de RTL, Pascal Muller de Top Music, Estelle Denis de RMC, puis Guillaume Aubert de Nostalgie et même Laurence Bloch de France Inter. Que du lourd, comme on dit. Brûlatour, merci. On espère te retrouver très bientôt dans ce podcast.
Des ondes vocastes.
Avant de nous diriger vers Paris, un petit mot sur les Radio Days Europe qui posent leurs valises du 9 au 11 octobre à Lisbonne. Les Radio Days, c'est 3 jours de conférences avec des professionnels de la radio de partout en Europe et dans le monde. Un programme très riche que l'on vous invite à consulter sur radiodayseurope.com. L'événement est payant et les conférences sont en anglais, mais cela vaut vraiment le coup. Parmi les intervenants du monde francophone, on note entre autres Gabriel Boéry-Charles de Binge Audio, Estelle Cognac, directrice éditoriale de France Info, Laurent Frisch, directeur du numérique à Radio France, Francis Goffin, président de l'Alliance européenne pour la radio numérique, ou encore Vincent Soulet, producteur exécutif du Morning de Chéri FM. Des ondes vocastes et partenaires presse des Radio Days Europe, nous suivrons cet événement sur place et ferons un bilan des conférences dans notre prochain épisode. Mais pour l'heure, direction la Tour Mirabeau à Paris.
Des ondes vocastes, l'invité.
Hervé Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en charge du groupe de travail radio et audio numérique. Vous avez pris la succession de Nicolas Curien sur ce poste il y a un peu plus de 6 mois. Et dans quelques jours, va être franchie une étape essentielle des travaux effectués par votre prédécesseur, et aussi par vous-même et vos équipes, le lancement du DAB+ métropolitain.
Oui, c'est une étape qui est particulièrement importante dans le déploiement du DAB+. Hein, ça n'est pas le démarrage du DAB+, puisque aujourd'hui, on a déjà plusieurs centaines de radios qui sont sur le DAB+, et on a un peu plus de 30% de la couverture de la population française qui est couverte. Mais là, on va dire qu'on va allumer les antennes nationales du DAB+, qui dans un premier temps vont couvrir effectivement un axe Paris-Lyon-Marseille, mais aussi toutes les villes qui sont sur ce trajet. On peut citer Auxerre, Beaune, Dijon, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Valence, Orange, Avignon, Aix-en-Provence, comme ça en descendant vers le sud sur 2000 km d'autoroute et les villes qui sont avoisinantes ou par lesquelles passe cette autoroute. Et puis après, ces antennes nationales vont être appelées dans le temps à se déployer pour avoir une couverture j'espère demain, enfin dans quelques temps en tout cas, de 100% de couverture. Alors c'est important en termes de couverture, ça fera 25% de la population qui va être couverte sur ces antennes nationales, en plus de ce qui est déjà existant sur les étendues et les locaux. Et puis c'est 25 radios supplémentaires qui vont être audibles sur ce secteur-là. Et ce sont les plus grandes radios, on va dire les plus importantes en audience, souvent en puissance économique, que ce soit des radios privées ou les radios du service public, puisqu'on va avoir 19 radios privées et 6 radios publiques qui vont être sur ces 2 multiplex métropolitains. On va avoir même des nouvelles radios qui vont démarrer. Il va y avoir RZN, il va y avoir BFM Radio et il va y avoir Skyrock Classics.
Très bien. Alors effectivement, avec ces 25 radios nationales supplémentaires qui vont s'ajouter avec les multiplexes locaux et régionaux, on va effectivement avoir un mix de radios qui seront à la fois nationales, régionales, locales et bien sûr les radios associatives. Alors justement, dans cette nouvelle offre de programme, on a notamment Skyrock Classics. Alors je vous propose qu'on écoute un petit extrait de Skyrock Classics qui émet déjà sur Internet et qui, à l'occasion du coup de ce déploiement, va arriver sur l'axe Paris-Lyon-Marseille.
Au départ, ils n'étaient que sur Skyrock. Aujourd'hui, tu les entends partout. Skyrock Classics. Skyrock Classics, les éternels de Skyrock en version originale. Brother, it's got to be copacetic. One time. Suicidal. Tu les écoutes toute la journée sur Skyrock. I'm in love with the shape of you.
Une dernière danse ensemble avant que tout s'éteigne.
Classics, K-L-A-2-S-I-K-S.
Voilà, c'était Skyrock Classic qui arrive donc sur le DAB+ métropolitain le 12 octobre. Alors, hormis l'allumage des émetteurs sur cet axe, est-ce qu'il y a des événements qui sont prévus à l'occasion de ce lancement ?
Bah écoutez, je pense que ça va être une très belle occasion de faire connaître le DAB+ aux Français. C'est vrai que jusqu'à présent, c'est une technologie qui est encore peu connue, mais ce qui était un peu normal parce qu'on n'avait qu'un Français sur trois qui avait effectivement accès au DAB+. Donc, si on en parlait trop, on risquait de créer une déception si les gens achetaient des postes de radio équipés d'une puce DAB et qui n'aient pas été dans une zone de couverture. Là, maintenant, on passe, on va dire... à une étape beaucoup plus importante avec le démarrage des multiplex métropolitains. On va être à 465 radios qui vont être disponibles sur 40% pour 40% de la population. On sera à 50% de population couverte l'année prochaine. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut que les Français s'emparent de cette technologie, mais ils ont pu s'emparer d'autres technologies et d'autres usages. Et donc effectivement, on compte sur les éditeurs qui sont impliqués dans cette aventure, si j'ose dire, pour parler du DAB+, le faire connaître, les éditeurs, mais aussi les constructeurs qui maintenant doivent forcément mettre en vente des postes de radio ou des autoradios sur les voitures neuves qui sont équipés d'une puce DAB, c'est une obligation légale depuis décembre de l'année dernière. Et puis, on va dire, la distribution, les magasins qui vendent ces radios ou ces autoradios qui vont également en parler pour que petit à petit, les Français sachent que cette technologie existe et puissent en profiter avec un meilleur son numérique, en n'ayant plus d'interférences quand ils sont justement en voiture et que aujourd'hui avec la FM ils changent de fréquence, avec le nom de la radio qui s'affiche, donc il n'y a plus besoin de chercher non plus les fréquences. Donc ça va être un vrai confort et une véritable avancée pour les auditeurs.
Alors donc travail de communication chez les éditeurs, chez les distributeurs. Est-ce que le CSA de son côté, il a déjà créé Ma Radio FM et Ma Radio DAB+, des moteurs de recherche pour trouver ces radios, mais aussi communiquer sur le site internet. Est-ce qu'il y a d'autres outils de communication, d'autres vecteurs de communication qui sont prévus de votre côté ?
Eh bien, écoutez, comme vous le savez, au printemps dernier, nous avons lancé la fête de la radio, dont nous espérons que ce n'était qu'une première édition. Ça a été un véritable succès malgré des conditions sanitaires qui étaient évidemment difficiles. Toutes les radios se sont emparées de cette fête de la radio. On en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, on a eu beaucoup d'opérations pour mettre en valeur le média radio qui est quand même le média préféré des Français avec près de 40 millions d'auditeurs. On peut espérer, il faut en discuter évidemment avec nos partenaires, qu'il y aura prochainement une deuxième édition de cette fête de la radio et qui peut être une très belle occasion justement là aussi de communiquer sur le DAB+.
D'accord, donc dans les mois à venir, une nouvelle fête de la radio. D'accord, alors, petit retour en arrière, hein, le DAB+, ça a été quand même une longue histoire en France, on va pas forcément revenir sur cette histoire, mais c'est vrai que le DAB chez nos voisins britanniques a été en place depuis un peu plus de 20 ans. Quel est le sentiment aujourd'hui? C'est la réunion de toutes les familles de la radio, c'est le sentiment du devoir accompli, quel est l'état d'esprit?
Ben, je pense que ce sera le sentiment du devoir accompli quand on aura 100% de couverture du DAB, que tous les Français seront équipés en radio DAB et que toutes les radios seront disponibles sur le DAB. Là, on sera effectivement dans le devoir accompli. On n'en est pas encore là et il y a encore du travail à faire. Alors oui, effectivement, les démarrages ont été peut-être un petit peu lent au goût de certains, mais il fallait le temps que chacun s'empare de cette technologie et en réalise l'importance et l'impact sur le secteur de la radio et auprès du public. C'est vrai que dans certains pays d'Europe, on a un taux de couverture qui est plus important. On est à 100% en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique. On a en Hollande, on a la Suisse qui va bientôt éteindre la bande FM en 2024, la Norvège a déjà franchi le pas. On est aussi en avance par rapport à d'autres pays d'Europe comme l'Espagne. Donc voilà, la technologie se déploie à son rythme et au rythme des éditeurs, ce qui me paraît quelque chose de normal. En revanche, je pense que là, on est vraiment en train de passer un cap extrêmement important. Avec le démarrage des multiplex métropolitains, avec ce taux de couverture qui est de plus en plus important et qui se déploie de manière exponentielle, on est en avance de phase par rapport à ce qui était prévu. On pensait être à 40% de couverture en 2023. En fait, on sera à 50% en 2022. Donc, je pense que là, maintenant, ça y est, on est en train de se déployer et j'espère bien que nous ne reviendrons pas en arrière.
Alors, une petite question justement sur la densification de ce réseau. Donc, il y a pour tout ce qui est multiplex locaux et régionaux, il y a un calendrier qui va s'étendre pour les prochaines années sur les zones qui restent à couvrir. Sur le DAB métropolitain, c'est un peu le libre arbitre des deux multiplex qui s'appelle M1 et M2 de densifier le réseau avec des obligations à 4 et 8 ans. Est-ce que vous avez de la visibilité sur quelles seront les prochaines priorités du développement du DAB+ métropolitain? Quelles seront la priorité de ces deux multiplexes?
Alors vous avez raison, hein, ça va être quand même beaucoup à la main des éditeurs. Ce sont des investissements qui sont lourds d'un point de vue technologique et d'un point de vue économique, donc c'est aussi à eux de parler. Nous sommes en train de travailler avec eux à la création d'un certain nombre d'indicateurs qui vont nous permettre d'objectiver ce débat et de voir comment est-ce que le DAB+ se déploie, quel est le taux d'équipement chez les Français, comment est-ce que les Français s'en emparent, quelle est la notoriété du DAB+, et ça va aider les radios qui sont impliquées dans les multiplex métropolitains à prendre les bonnes décisions, évidemment avec le Conseil supérieur d'audiovisuel, sur le rythme auquel on va déployer ces multiplex métropolitains, ces antennes nationales du DAB+. C'est une blague, mais j'aime bien utiliser cette expression, on n'est pas à l'abri du succès. C'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer qu'on va trouver que ça se déploie très bien, qu'il y a un véritable engouement des Français et que ça ira peut-être même plus vite que ce qu'on peut imaginer. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Déjà, on va démarrer les antennes des multiplex métropolitains et on va voir comment est-ce que ça se déploie. Et puis après, bah vous avez raison de le rappeler, hein, il n'y a pas que les multiplex métropolitains. À horizon très bref, on va continuer de déployer des allotissements étendus et locaux. D'ici à la fin de l'année, il va y avoir 5 villes supplémentaires qui vont accueillir le DAB+, Annecy, Annemasse, Chambéry, Grenoble et Saint-Étienne. En 2022, on va avoir 21 villes qui vont voir le DAB+ se déployer chez elles. Et puis, on va aussi, sur certains territoires, renforcer le DAB+ déjà existant. C'est vrai, par exemple, en Corse, mais c'est vrai aussi à Bourges, à Guéret, à Laval, à Mont-de-Marsan, à Périgueux, à Valence, etc. Donc, on continue ce travail de densification de la couverture. Et puis, on en parle pas assez souvent, mais il y a aussi les zones en outre-mer où la radio est extrêmement importante. Jusqu'à présent, les éditeurs n'étaient pas trop enclins à s'emparer du DAB+ pour des raisons principalement économiques et ils n'en voyaient pas l'utilité. Mais on voit que à La Réunion et en Martinique, il y a des expérimentations de DAB+ qui sont en train de démarrer à l'initiative des éditeurs et ça, c'est plutôt très bon signe.
Effectivement, ça vient d'être, ça a été communiqué récemment. Et c'est vrai que vous soulignez quelque chose aussi. C'est, il y a une des beautés du DAB+. Alors les étapes pour les autorisations sont sans doute un peu plus longues qu'en FM parce qu'il faut constituer un multiplex. Mais une fois qu'un multiplex est autorisé et ses éditeurs, les multiplex sont libres de densifier autant qu'ils veulent. Leur zone, leur plaque, c'est-à-dire de rajouter des émetteurs, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en FM à cause des problèmes de synchronisation en isofréquence.
Oui, et puis il y a aussi une de par la constitution des multiplex, une solidarité qui se met en place entre les éditeurs de toute catégorie. Je trouve que c'est très important de souligner que sur les 465 radios qui vont être en émission sur le DAB+ à partir du 12 octobre, il y en a près de 200 qui sont des radios associatives, ce qui représente quand même près de 43% des radios en DAB+, ce qui montre que le DAB+, c'est vraiment une technologie pour tous et que toutes les radios s'en emparent. Et puis, ce qui est aussi très rafraîchissant et enthousiasmant, c'est de constater qu'une radio sur cinq est une nouvelle radio, ce qui n'est pas possible, évidemment, sur la bande FM qui est saturée. Donc, on a une nouvelle offre qui apparaît. Vous parliez tout à l'heure de Skyrock Classics. On parlait également de Herzen, de BFM Radio. Ça, c'est pour les multiplex métropolitains. Mais il y en a aussi un petit peu partout qui démarrent. Moi, je pense à des radios comme Radio Crooner, par exemple, qui n'émet que sur le DAB. Et ça, c'est formidable de pouvoir, en 2021, offrir un paysage radiophonique encore plus riche qu'il n'était jusqu'à présent.
Très bien. Alors, on arrive vers la fin de cet entretien. Toutes les radios sont dans l'attente de ce moment clé. Alors, certaines sont prudentes, voire inquiètes. D'autres sont plus moteurs ou optimistes. Mais derrière, ce sont des grands groupes de radios, mais aussi des dirigeants, des entrepreneurs de la radio. On imagine que ce sont des investissements financiers, mais aussi de l'énergie, etc. Quel est le message que vous voulez leur passer à l'occasion de ce moment clé?
Le message que je voudrais leur passer, c'est que cette année, nous célébrons les 100 ans de la radio et qu'en 100 ans, le secteur de la radio a toujours su s'adapter à son nouvel environnement, qu'il soit médiatique, économique et technologique. Et qu'on voit bien que les radios aujourd'hui, comme d'ailleurs beaucoup de médias traditionnels, sont à un carrefour avec... On passe rapidement sur les effets de la crise sanitaire que tout le monde connaît, mais d'une manière générale, il y a cette pression concurrentielle du numérique, il y a des nouveaux usages, et le secteur de la radio peut et doit relever ce défi. D'un point de vue technologique, on vient de parler du DAB+, mais c'est aussi l'écoute en IP, et je pense que d'un point de vue technologique, on ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il ne faut pas croire que le DAB+ sera l'alpha et l'oméga de la radio de demain, mais l'IP est également quelque chose d'important. Et c'est en fait ce mix de diffusion, cette capacité d'offrir un accès très simple et très facile à la radio à des gens qui sont enclins aux usages numériques, qui va compter d'un point de vue technologique. Et puis, on voit le déploiement aussi des podcasts, qui est une certaine forme de radio à la demande, si on considère que 9 podcasts sur 10 aujourd'hui, ce sont des podcasts qui sont produits par la radio et qui sont susceptibles d'amener ou de ramener un public qui n'écoute plus trop la radio ou qui n'écoute pas la radio, qui peut avoir la curiosité de revenir vers le linéaire. Et je pense que les radios vont également devoir penser, je pense notamment Radio Musicale, à la meilleure offre éditoriale possible pour se différencier justement des autres supports médiatiques qui sont offerts pour que les gens aient envie d'allumer leur poste de radio plutôt que d'aller, je sais pas, regarder la télévision ou d'aller sur YouTube regarder de la vidéo, de la vidéo à la demande. Et je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Et je pense que le DAB+ est une brique extrêmement importante de cette nouvelle révolution à laquelle la radio est confrontée dans son ensemble. Et je suis absolument certain que le secteur a toute la ressource nécessaire pour pouvoir franchir ce pas et rester le média préféré des Français.
Effectivement, et les radios et les éditeurs l'ont bien compris avec cette notion de mix, avec la FM, le DAB+, mais aussi des initiatives récentes comme Radio Player, bien sûr, le développement des podcasts. Justement, un mot sur la FM, il y a encore des appels à candidature en FM et les services du CSA travaillent encore pour essayer de dégager des nouvelles fréquences sur certaines zones, alors elles sont très rares. Pour vous, la FM va rester combien de temps? 40 ans, comme les grandes ondes sont restées 40 ans en parallèle de la FM?
Écoutez, c'est difficile à dire. J'ai presque envie de dire que ça n'est pas au CSA de répondre à cette question. On a la chance, d'une certaine manière, d'avoir la possibilité de juxtaposer ces deux technologies de diffusion que sont le DAB+ et la FM. Il n'y a pas d'obligation de faire un switch, si vous me passez l'expression anglaise, généralisé, comme ça a été le cas, par exemple, pour passer à la TNT pour la télévision. Donc, il va appartenir aux éditeurs et aux auditeurs de voir quels usages ils font de la FM par rapport au déploiement et à la montée en charge du DAB+. On peut imaginer, et encore une fois, il n'y a pas de décision à prendre maintenant, mais on peut imaginer que le jour où on aura 100% de couverture du DAB+ en France, que tous les auditeurs seront équipés d'une radio DAB, que tous les éditeurs seront montés sur le DAB, qu'à un moment, on se rende compte tous collectivement, ce qui est en train de se produire, notamment en Suisse actuellement, que finalement, la FM n'a plus vraiment l'usage qu'on pouvait en avoir jusqu'à présent, et qu'il n'y a plus de nécessité d'être sur la bande FM. Mais on n'en est pas là. Et en termes de calendrier, je n'ai absolument aucun calendrier à annoncer. Ce calendrier, il va principalement appartenir aux éditeurs.
Hervé Gocho, merci beaucoup. Bon courage pour les dernières étapes de ce lancement. Et puis,
c'est moi qui vous remercie.
On espère vous retrouver bientôt. Pourquoi pas dans la prochaine édition de la fête de la radio. Merci encore.
Avec grand plaisir, je l'espère. Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Des ondes vocastes, l'univers de la radio en podcast.
Et voilà, Des Ondes Vocastes, c'est terminé pour cette fois-ci. On se retrouve le mois prochain avec encore plus d'infos radio, et notamment un zoom sur les Radio Days Europe et une petite incursion dans le monde des radios associatives. À la prochaine!
Des Ondes Vocastes.